c'est l'heure de chute, on écoute la télé. Votre talk show radio sur Attitude, votre radio en Charente avec Alain Jeanne.
Succombez au plaisir d'un dessert Marie Morin en écoutant Chute, on écoute la télé. Marie Morin, une entreprise familiale, un goût inimitable. Retrouvez la fameuse mousse au chocolat à l'ancienne et vos recettes sans colorant, sans conservateur et vos points de vente près de chez vous sur marie-morin.fr. On écoute la télé avec votre espace culturel Leclerc de Barbezieux, votre référence culturelle en Sud-Charente. Chut, on écoute la télé avec votre Club Med La Palmyre Atlantique. Envie de vous évader le temps d'une journée ou d'une soirée all inclusive? Avec votre Club Med, c'est possible. Profitez des animations et des activités sportives, de la restauration le temps d'une parenthèse bien méritée. Renseignements et réservations au 05 46 39 77 30. Club Med, venez vous étonner.
Bonjour à tous et très bon début de semaine. Je suis ravi de vous retrouver pour ce nouveau numéro de Chute, on écoute la télé, l'hebdo sur Attitude, où j'ai le plaisir de vous accompagner pendant une heure, pendant votre déjeuner, entre 13h et 14h. On va passer en revue ensemble l'actualité culturelle de la semaine avec tous nos invités. Alors, sans plus tarder, voici tout de suite le sommaire.
Chute, on écoute la télé, le talk show radio.
Et voilà, après cette émission spéciale Guadeloupe la semaine dernière, nous voilà de retour en métropole avec un sommaire encore chargé aujourd'hui avec deux coups de cœur ciné. Le premier dans un instant, le film vient de sortir au cinéma, ça s'appelle Ici et là-bas. Ludovic Bernard et Hugo Becker vont venir nous rejoindre dans une poignée de secondes. Et puis nos coups de cœur télé cette semaine consacrés à Terminal qui débute ce soir sur Canal+. Mohamed Hamidi, le réalisateur, sera avec nous. On va parler de disparition inquiétante avec Bruno Solo qui sera diffusé mercredi soir sur France 2. Et puis on va parler du grand retour de Pékin Express pour la demi-finale et on va revenir avec Louison sur son parcours hors norme, justement avec Riyad dans l'aventure. On reviendra et on fera le bilan avec lui. Et puis enfin l'émission spéciale Frère, le film sort mercredi au cinéma, c'est un événement, le nouveau film d'Olivier Casas qui sera avec nous avec Michel de Robert, dont justement c'est l'histoire, la véritable histoire, un moment émouvant en perspective qui vous attend.
Le coup de cœur ciné de la semaine.
Notre coup de cœur ciné cette semaine est consacré au film Ici et là-bas avec Ludovic Bernard, le réalisateur, qui est avec nous aujourd'hui. Bonjour Ludovic.
Bonjour, bonjour.
Très heureux de se retrouver après ces 10 jours sans maman ou encore sans maman. C'est avec grand plaisir qu'on te retrouve avec un duo hyper énergique, Ahmed Silla et Hakim Jemili, Hugo Becker, qui va nous rejoindre également dans un instant, qui joue un peu le méchant aussi de l'histoire. Raconte-nous un peu l'histoire de base et surtout comment est venu ce projet.
C'est un projet qu'on m'a proposé, un scénario qu'on m'a proposé, que j'ai lu dans la journée et que j'ai accepté quelques heures plus tard. Donc voilà, que je trouve que c'est un film, une comédie qui a un sens, qui a de l'émotion et qui fait rire et qui raconte quelque chose. Quelque part, ça m'a rappelé beaucoup l'Ascension. Et du coup, j'ai appelé Ahmed Silla très vite, hein, qui l'a lu également dans la journée et qui m'a tout de suite dit oui.
Alors on va y retrouver le parcours d'Adrien qui lui est installé depuis 15 ans au Sénégal, sénégalais dans l'âme, hein, je crois qu'on peut le dire comme ça. Et puis on va y suivre également Sekou, alias Cédric, pour le travail, qui lui est installé en France, c'est Ahmed Silla, et qui va se retrouver en compétition pour ne pas être licencié et va devoir évidemment faire avec et faire un tour de France pour tenter de décrocher des contrats pour son entreprise, sans compter son cousin Adrien qui lui va être expulsé du Sénégal alors que sa femme attend un enfant et va tout faire pour rentrer au Sénégal au plus vite puisque lui ne comprend pas pourquoi il ne veut pas rester là-bas. Est-ce que pour lui il est sénégalais? Bah oui, mais seul problème c'est qu'il est français.
C'est qu'il est français, exactement. On a inversé les rôles. On a voulu parler de cette thématique là d'aujourd'hui qui est aussi un petit peu le racisme et d'inverser les rôles avec Ahmed et Hakim. Et c'est bien résumé.
Toute une partie tournée au Sénégal.
Oui.
En plus, ça doit être chouette de pouvoir tourner au Sénégal.
Le Sénégal est un pays absolument magnifique. On a été très bien accueillis. On est resté là-bas plusieurs semaines. Et c'était important de montrer la beauté du Sénégal, aussi belle que la France l'est également. Donc voilà, c'était vraiment... on a fait de très très belles images là-bas.
Puis il y a tout un tour de France. Donc ça a été tourné à chaque fois dans les villes. Alors, on a vu Troyes, on a vu Uzès, qui va être une grosse partie aussi. Mais ça a été tourné dans tout plein d'endroits de France, ce qui doit compliquer la tâche quand même pour un tournage.
Ah bah bien sûr, on s'est beaucoup baladé, on est allé à Berck, on est allé à Paimpol en Bretagne, on est allé à Troyes comme vous le disiez, on est allé à Uzès, à Toulon, à Marseille et je crois que j'en oublie une ou deux villes. Oui, c'est un film qu'on a passé sur la route, voilà. Mais de toute façon, c'est le road trip du film, hein, c'est le buddy movie et le road trip, c'est deux personnages qui sont enfermés dans la même voiture et qui doivent faire un tour de France ensemble. Voilà, et ce tour de France va leur permettre de se retrouver, de retrouver en tout cas leur identité.
Et il va y avoir un pacte qui va être passé entre les deux cousins, puisque le personnage d'Hakim, Adrien, va avoir besoin de 3000 euros pour rentrer au Sénégal. De son côté, Sékou, lui, alias Cédric pour le travail, pour signer son contrat, va faire passer son cousin pour lui, puisqu'il a peur effectivement de sa couleur de peau et que ça lui empêche. Le racisme, effectivement, est en fond, même si c'est traité sous fond de comédie, mais il y a quand même un très très beau message aussi là-dessus, puis des interrogations que ça peut poser vis-à-vis du public. Et donc, le personnage d'Ahmed Silla va lui proposer de lui payer ses 3000 euros en échange de l'aider tout au long de cette semaine, puisqu'il a 5 jours, en tout cas, pour décrocher plus de contrats que Bergeron, alias Hugo Becker, qui va nous rejoindre dans un instant.
C'est exactement ça. Et l'idée principale, c'était vraiment d'inverser les rôles entre Ahmed et Hakim. Mais c'est terrible, je trouve, de voir, et je pense que c'est ce que vit le personnage d'Ahmed dans le film. Je pense qu'il y a beaucoup de gens qui doivent le vivre encore aujourd'hui. Et ça, c'est terrible, on doit trouver une solution à ça.
Ouais, pour enlever ses a priori, ce racisme au CV, au nom, enfin c'est dingue qu'en 2024 on en soit encore là, quoi.
Oui, c'est pas possible. Et donc voilà, c'est de ça dont je voulais qu'on parle. Et si les gens peuvent réfléchir et écouter et entendre ce message, ce sera encore mieux.
Voilà. Il y a une scène particulière pour toi qui a été drôle à faire, où tu as vu un peu la magie opérée déjà d'entrée avec ces deux comédiens incroyables.
Surtout une phrase dans le film que j'aime beaucoup, c'est la phrase d'Hakim quand il dit « Je suis français, je suis sénégalais, ici ou là-bas, je suis l'homme que je suis et je le resterai ». C'est une phrase qui résume bien le film. Voilà.
Il y a des souvenirs de tournage particuliers avec ces deux-là, parce que là, on a quand même de Rolls qui sortent de scène, qui sont capables d'improviser à n'importe quel moment. Est-ce que tu les laisses sortir un peu de temps en temps du cadre pour proposer des choses, ou ils doivent rester absolument dans le texte et dans ce que tu leur demandes?
Ils doivent rester dans le texte parce que la comédie demande beaucoup de rigueur, plus de rigueur qu'on ne le pense. En tout cas, mais malgré tout, évidemment, il y a des impros, parce que j'ai deux Rolls-Royce, j'ai deux mitraillettes absolument génialissimes, et il y a eu beaucoup beaucoup de fou rire, même avec le texte écrit. Il y a pas mal de coupe à cause de ça, et d'ailleurs à la fin il y a un petit bêtisier dont on pourra profiter.
Si vous avez envie en tout cas d'aller rire, d'être ému, mais c'est le moment d'aller voir Ici et là-bas. Ça sort mercredi au cinéma. Ludovic, merci d'avoir été avec nous. On va se quitter avec la bande-annonce juste après Hugo. Et avant de terminer, est-ce que tu prépares déjà ton prochain film?
Je prépare, mais je n'en parlerai pas aujourd'hui.
Tu reviendras.
Exactement, avec plaisir.
À bientôt Ludovic. Et tout de suite après, Hugo Becker nous rejoint dans Chute, on écoute la télé. À tout de suite.
Je veux un passeport sénégalais, moi.
Il est bien mignon avec ses histoires de passeport. En attendant, moi, j'ai juste mon job.
Et c'est quoi ton job?
Je travaille chez Terroir de nos régions.
Je représente les terrines, les foie gras, le bon pain, les spécialités françaises.
Mais moi, comment je fais, là? Bah, tu m'accompagnes.
Oui, allô, Alexandra? Je suis en chemin, là.
Et ça bouchonne pas mal, hein.
Tu parles bien le blanc, hein.
T'as intérêt à tenir un carreau, toi.
Et on revient avec notre spécial ici et là-bas. Et puis après, Ludovic Bernard, c'est Hugo Becker, un habitué de l'émission, qui nous rejoint. Bonjour, mon cher Hugo.
Salut Alain, merci de me recevoir encore.
Eh ben, écoute, tu es chez toi ici, tu le sais, et ici et là-bas. Eh bien, c'est le film où tu joues un parfait connard, et ça, qu'on ce qu'on aime. Puisque là, Bergeron, on a planté le décor, hein, évidemment, avec Ludovic, mais Bergeron est celui qui va tout tenter, puisque dans l'entreprise, c'est l'un ou l'autre qui va garder son poste, et donc il va tout faire pour que Cédric n'arrive pas, évidemment, avant lui, à rassembler le nombre de contrats nécessaires pour garder son poste. Comment, sur un film comme ça, sur un rôle comme ça, qu'est-ce qui t'a plu en premier? Est-ce que t'as dit oui tout de suite déjà?
Ce qui m'a plu le plus, en fait, Ludovic Bernard m'a appelé, j'ai lu le scénario, j'ai trouvé que la thématique et le sujet, à mon sens, fédérateur et réconciliateur, ça faisait du bien, ce genre de film. Et j'avoue que moi, Ahmed Silla et Hakim Gemini, c'est deux acteurs que je trouve super, donc ça m'enthousiasmait déjà. Et la thématique du film, ouais. La thématique du film. Et après, évidemment, sur le rôle, ce qui m'amuse, moi, j'essaie de faire des choses différentes. Bah, tu vois, de pas refaire toujours la même chose. Et c'est vrai que du coup, c'était assez jouissif et assez amusant de jouer un lourd, un peu le mec un peu beauf qui te met des claques dans le dos, et qui est un peu en surconfiance et qui a un côté
très prétentieux,
qui est un peu ouais, qui est assez prétentieux, très sûr de lui et qui effectivement son rival et qui est un peu un effectivement qu'on peut voir un peu comme un connard, même si je trouve que il a un truc touchant, ce mec là.
Ça vient au fur et à mesure.
Ouais c'est ça. Après bon, évidemment les stars c'est Ahmed et Hakim dans ce film, mais c'est vraiment c'est Starsky et Hutch quoi. Et lui, tu n'as pas accès à son intimité de la même façon, mais je trouve qu'il y a quelque chose, c'est un rôle où tu t'amuses vraiment à jouer quelque chose comme ça, et je trouve qu'il y a quand même une petite évolution dans le personnage, et la fin te donne un petit espoir pour Bergeron, où tu dis il est peut-être pas complètement
si pourri que ça.
Il est peut-être pas complètement foutu ce mec là. Ouais voilà, exactement. Donc voilà.
Il y a quelque chose de très véridique, de très réel.
Si on joue des gens qui deux personnages qui se détestent, au final c'était dans la vie, c'est pas du tout le cas, donc et je pense que c'est important d'ailleurs pour bien jouer deux personnages qui se foutent sur la gueule. C'est bien de bien s'entendre et qu'il y ait des affinités entre les acteurs. Je pense que c'est important, sinon tu fais pas les choses de la bonne façon, je crois. Tout le monde joue en fait dans la vie, et Bergeron, c'est clair que c'est un mec qui a une façade totalement. Ce que je trouve intéressant dans le film, c'est que même si évidemment c'est le rival et l'ennemi, et tu vois, il y a un moment donné où il y a une scène où on justifie un peu son comportement.
Enfin, c'est là où il tombe un peu le masque.
Exactement. Et en fait, le monde de l'entreprise, je pense que c'est compliqué pour tout le monde. Tout le monde est mis en compétition tout le temps. Et effectivement, quand t'as moins d'expérience, bah t'es obligé de bluffer un peu, t'es obligé de te la raconter un peu. Pour certains, en tout cas, tu tombes dans le travers de te la raconter ou devenir quelqu'un que tu n'es pas, quoi.
De mettre une espèce de contradiction, effectivement, aussi. On termine par tes projets, Hugo ?
Ouais, avec plaisir. Là, j'ai une série qui s'appelle The New Look, une série pour Apple TV.
Qui va sortir, ça, oui.
Exactement, en anglais, donc avec Juliette Binoche, John Malkovich et Maisie Williams et Ben Mendelsohn. Donc ça, c'est sur Apple TV. Et j'ai la série La Peste.
Oui, qui est sur France.tv encore, d'ailleurs.
Exactement, La Peste avec Frédéric Pierrot, avec Pascal Arbiot, Judith Chemla, Sophia Essaidi. Il y avait un casting génial sur ce projet. Série de Antoine Garceau, adapté de La Peste de Camus évidemment, mais de façon dystopique. Donc voilà les projets du moment.
Bon bah c'est chouette, et puis ici et là-bas, donc on ne rate pas évidemment.
Et surtout ici et là-bas, évidemment.
Merci Hugo, à bientôt.
Merci à toi, merci beaucoup.
Allez, bougez pas, dans un instant, nos coups de cœur télé avec Mohamed Hamidi, Bruno Solo et Louison de Pékin Express, notre spécial frère. C'est tout de suite dans Chut en écoute la télé.
Chut en écoute la télé, le talk show radio. Nos coups de cœur télé cette semaine.
Notre coup de cœur télé consacré à Terminal qui débarque ce soir sur Canal+, nouvelle création originale Canal, avec Mohamed Hamidi qui est aux manettes de cette nouvelle série. Bonjour Mohamed.
Bonjour.
Merci d'être avec nous, t'es un habitué de l'émission et là c'est avec un grand plaisir pour la première fois. Eh bien c'est pour une série que tu viens, c'est pas pour un film cinéma, et une série qui s'appelle Terminal, où je crois qu'on va beaucoup rire. Hein.
C'est vrai, c'est une série de sitcom hein, à l'ancienne, avec les codes publics, en studio, avec des séquences courtes et avec beaucoup de punchlines et beaucoup de vannes. Ça a été écrit par une équipe d'auteurs et avec lesquels on a retravaillé ensuite avec Jamel Debbouze, parce qu'en fait je co-réalise la série avec Jamel Debbouze, et au casting on a des gens comme Ramzy Bedia, comme Camille Chamou, comme Tristan Lopin, comme Brahim Boulel, et beaucoup d'invités aussi. Et donc c'est la création originale qui nous a... ça fait quelques années que Jamel avait envie de revenir à la sitcom depuis H, hein, ça faisait 22 ans je crois, et ça a été très... voilà, c'est un parcours très intéressant, assez beaucoup de doutes en se disant est-ce qu'on va réussir à monter ce truc et tout, et finalement c'était un vrai plaisir, une vraie joie. Enfin, pour moi qui fais du cinéma mais aussi de la scène, parce que je fais aussi la mise en scène, c'est pile entre les deux quoi, c'est-à-dire qu'il y a l'exigence de l'image et du cinéma, mais il y a aussi la jouissance de jouer devant un public et d'avoir des réactions immédiates quoi. Donc ça c'est vraiment super.
Et la rapidité aussi, parce que c'est pas le même rythme qu'au cinéma, même si à la télé, Canal+, c'est peut-être la chaîne qui laisse peut-être le plus de temps aujourd'hui, mais malgré tout, en jour de tournage, c'est toujours plus rapide qu'au cinéma.
Bien sûr, là on a tourné quasiment 12 épisodes de 26 minutes en 35 jours, donc ça équivaut à 4 films. Et du coup, ça nous a effectivement obligé de prendre un rythme assez rapide. Et ce qui oblige aussi à aller vite, c'est la présence du public. Parce que le public, même si le public vient pour assister à un tournage, et il vient pas assister à une pièce de théâtre ou à un show, hein, mais malgré tout, voilà, quand on a le public en face de soi, ben on a envie d'être plus efficace. Donc on fait 2-3 prises maximum, 4 prises, parce que on veut pas les user non plus. c'est vrai qu'on tournait en gros notre rythme. C'était une journée de lecture, répétition et deux jours de tournage pour un épisode.
Alors ça, ça se fait plus, un tournage d'une série en public, où le public peut assister carrément et devient un peu aussi membre à part entière, aussi avec les rires, avec tout ce que ça comporte à côté.
Ah non, mais le public, c'est vraiment, vous verrez dans la série, tous les rires sont des vrais rires qui ont été captés pendant l'enregistrement de la série. Ça change complètement la manière de jouer des comédiens, ça change complètement la manière de réaliser aussi pour nous, parce que forcément, on est sur des décors, hein, sur du studio, donc le public n'est pas présent à l'image, mais on l'entend, et le public donne l'action. Par exemple, Saïd Jamel tenait beaucoup à ce que sur chaque séquence, ce soit le public qui fasse 3, 2, 1, action. Donc ça, pour les comédiens, c'est hyper grisant. Et puis, effectivement, on fait une prise, et puis après, on dit au public, alors voilà, on va changer des choses. On a vu que cette vanne, elle passait pas trop, donc on était avec les auteurs, on réécrivait sur place. En fonction de la réaction des gens, les auteurs, les comédiens avaient toujours envie. En plus, c'est les comédiens qui aiment beaucoup improviser, comme Ramzy, comme Camille Chamou, Brahim Boulel, Tristan Lopin, puis des invités comme Kad, et on a quand même Kad Merad, on a quand même Manu Payet,
Camille Cotin.
Camille Cotin, Horatica, enfin, des gens qui ont vraiment apprécié d'être en public. Ça change vraiment, c'est entre le théâtre et le cinéma. Donc franchement, c'est un vrai bonheur à tourner.
Ça raconte quoi en quelques mots, le début ?
Alors Terminal, en fait, c'est une compagnie low cost, un peu de pied nickelé, mais hyper attachante. Le commandant de bord, c'est Ramzy.
Ça donne le ton.
Le commandant de bord, c'est Ramzy. Sa copilote, c'est Bérangère MacNiz. Et en gros, c'est une compagnie qui s'appelle Flywings, qui est un peu, voilà, la compagnie un peu mise de côté, mais qui, à chaque fois qu'il y a des vols, il se passe toujours des trucs incroyables. Ils ont perdu un boulon, donc ils peuvent pas décoller. Ou alors, sur un autre épisode, il y a une inspection et c'est pile le jour où Ramzy a filé son costume de pilote à un des PNC pour lui faire plaisir. Donc le PNC se retrouve dans la cabine de pilotage, l'inspecteur en question est joué par Kad Merad. C'est aussi un moment, le fils du patron qui vient faire un vol et qui s'enferme dans le cockpit et qui prend les commandes de l'avion. C'est complètement loufoque. On a gardé vraiment l'état d'esprit de l'absurde, hein. C'est une famille d'aviation, on va dire, à laquelle on s'attache beaucoup. C'est un plaisir toujours de créer des personnages et de les voir vivre dans le temps, parce que la série, ce qui est intéressant, c'est la durée dans le temps. Ce sera diffusé par 2 épisodes, donc ça fait 6 soirées.
Ah ouais, donc c'est parti pour un mois et demi.
Ouais, un mois et demi de diffusion, et sans parler de la saison 2.
C'était tourné où ? En studio ?
Ça a été tourné en studio à Tigerie, dans un studio qui s'appelle Black Matters, qui est à une vingtaine de kilomètres de Paris.
Quand on tourne en studio comme ça, ça permet peut-être de gagner du temps aussi, quand on a tous les décors au même endroit comme ça.
C'est un autre travail, c'est-à-dire qu'effectivement, on va toujours au même endroit. On tourne qu'il pleuve, qu'il vente, qu'il neige, donc ça c'est génial. Surtout qu'on a tourné au mois de novembre et que c'était pas très, que le climat était pas génial. Non, ça a de grands avantages, c'est qu'effectivement on maîtrise tout en studio. Par contre, effectivement, il faut en studio, il y a un effort de mise en scène supplémentaire à faire parce qu'on n'est pas. Moi, j'aime bien tourner mes films en décor naturel. Très souvent, je tourne en décor naturel et en studio, il faut recréer la vie, donc ça demande une attention particulière. Dans la mise en scène.
La comédie, on dit que c'est ce qui est le plus pointu. Malgré tout, sur un tournage comme celui-là, est-ce que on se laisse aller à des moments de fou rire quand on les voit jouer ? Parce que j'imagine quand toi t'es derrière justement la caméra et que tu vois des Ramzy Bedia, des Kad Merad, avoir l'œil qui frise comme ça, c'est des comédiens hyper instinctifs en plus. Est-ce qu'on arrive à se retenir un peu ?
Quand on a monté la série, on s'est aperçu qu'il y avait énormément de ce qu'on pourrait appeler du making-of ou du bêtisier, parce qu'effectivement, devant le public, alors, par contre, on avait une règle, nous, c'est que on allait toujours au bout des scènes. Comme on n'avait pas le temps, il fallait impérativement que quand une séquence démarrait, que ce soit une séquence de 2, 3 ou 4 minutes, on allait jusqu'au bout. Donc quand les mecs se marraient ou les filles se marraient, on leur disait, on veut pas le savoir, vous reprenez votre phrase et on continue, rendez-vous à la fin de la séquence, quoi. Et, bien sûr, ils sont très tentés d'improviser, très tentés de surprendre le public, de nous surprendre, nous. Oui. De surprendre leurs partenaires. Très souvent, ils disaient, attends, je vais lui en faire une, tu vas voir. Ou moi, parfois, avec Jamel, on trouvait des vannes, et puis on disait, tiens, Brahim, tu vas balancer ça à Ramzy, mais ne lui dis pas, on va voir comment il va réagir. Donc, tu lui sors cet objet, donc, on se faisait des petites surprises comme ça, parce qu'au bout de 2-3 prises, voilà, on veut continuer à surprendre le public et à surprendre les comédiens. Donc, bien sûr, on a eu des grands fous rires. Et d'ailleurs, moi je pense que ça se ressent aujourd'hui quand on voit la série. Et d'ailleurs, ces petits bêtisiers là où on voit l'énergie qu'il y avait sur le tournage sont hyper intéressants à regarder. Il y a un making of de la série aussi, on peut voir sur Canal, où on voit vraiment dans quelle ambiance ça a été fait.
Et ben, en tout cas, moi j'ai déjà hâte de découvrir Terminal. Ça débarque ce soir, les 2 premiers épisodes sur Canal+, nouvelle création originale réalisée par Jamel Debbouze et Mohamed Hamidi. Merci Mohamed en tout cas d'être venu nous en parler.
Et bonjour à tous, c'est Jack, votre commandant de bord.
Quelle est votre position et comment vous ?
Ma position est assise, je répète, position assise.
J'ai un billet classe pour la business class.
On dirait Khaled carrément.
Tu sniffes de l'eau écarlate pour être aussi con, quoi.
Moi, je suis né dans les favelas. Je suis un mec de la street à la base. Excusez-moi.
T'es tranquille de me couper la parole? T'as pas remarqué que j'étais en train de développer une pensée?
Notre coup de cœur télé est consacré à Disparition inquiétante, produit par notre ami Stéphane Strano, qui est également le président du Festival de la fiction de télé de La Rochelle, avec un nouvel opus intitulé Peur sur le campus. Et on va y retrouver un nouveau duo à la tête, justement, de ce Disparition inquiétante, incarné par Claudia Tagbo et Bruno Solo, qui est avec nous, qui est notre invité. Bonjour mon cher Bruno.
Salut Alain.
Eh bien, ça va très bien. Je suis très heureux de t'avoir pour ce nouveau numéro de Disparition inquiétante où tu vas jouer le rôle de Patrice Manzetti. Et c'est une incursion au cœur d'un campus qui va avoir la disparition inquiétante de l'une de ses étudiantes. Et c'est dans les méandres de ce campus que tu vas devoir enquêter avec Claudia Tagbo.
Dans les sous-bassements et les souterrains d'un campus universitaire dans lequel une jeune fille a été enlevée, visiblement, en tout cas, il y a un mystère. Dès les premières images, elle est assommée. Et on se demande si c'est une tentative d'assassinat, d'enlèvement, de kidnapping. On a peu de temps, comme toujours, dans la collection Disparition inquiétante.
Tout à fait. Indiquée
par Sarah Forestier au départ. Puis, je crois qu'il y a eu Julie Gaillet, Julie Depardieu, Alix Poisson, qu'on en fait une.
Ben oui.
Bon, voilà, c'est au tour de Claudia, que j'accompagne avec beaucoup de plaisir. Et donc, effectivement, on a peu de temps pour retrouver, c'est une sorte de course contre la montre pour retrouver quelqu'une ou quelqu'un, en l'occurrence quelqu'une, l'extraordinaire Pénélope Rose, qui est enfermée dans les souterrains de l'université. Elle est là, si loin, si proche de nous, et nous, on ne s'en rend pas compte, et donc on fouille un petit peu partout pour pouvoir enfin là. Donc voilà, c'est une sorte de course contre la montre avec deux personnages, une fille très déterminée, jouée par Claudia Tagbo, qui sort un peu de ses rôles de comédie, même si on sait qu'elle a le talent pour faire tellement d'autres choses, et un flic qui paraît un peu désinvolte, qui est un vrai bon flic, qui connaît bien son métier, mais peut-être un peu détaché, obsédé de ce jour-là par l'idée de prendre ses RTT, qui aimerait bien que l'enquête soit confiée à quelqu'un d'autre, mais voilà, il n'a pas le choix. Claudia Tagbo, qui vient d'arriver dans la ville, ne veut lui et que lui, même si elle ne s'entend pas particulièrement à lui, elle sent qu'il a un bon instinct, et elle se dit qu'il vaut mieux enquêter avec lui. Et ce type est visiblement un peu étrange, cache peut-être des secrets qu'on découvrira au fur et à mesure
évidemment.
Du film. Pardon.
Il faut dire que les étudiants aussi vont être quand même assez hostiles hein, à ces flics qui arrivent et on va dire vont pas leur faciliter la tâche à Julie et à Patrice. Hein.
Oui, parce que tout au début est précisé par le personnage joué par Julien Boisselier et sa compagne jouée par Nathalie Dolcheva. Il y a une sorte de loi très ancienne qui est vraie, hein, qui est inspirée d'une loi universitaire, de celui du campus, qui interdit à la police d'être présente sur le campus de l'université, comme s'il y avait une sorte d'autogestion des problèmes et que les flics n'avaient pas le droit d'entrer sur le campus. C'est le cas dans pas mal d'universités en France. Bon, après, sauf en cas, évidemment, de plan Vigipérate ou de choses exceptionnelles. Donc voilà, ils sont assez hostiles à l'idée. Et on va deviner aussi pourquoi certains d'entre eux sont assez hostiles à l'idée qu'une enquête se fasse sur le campus.
Ouais.
C'est la course contre la montre, c'est-à-dire qu'au fur et à mesure que l'enquête avance, la désinvolture apparente des personnages, en tout cas du mien, laisse place à une inquiétude sincère et le sentiment, effectivement, que la personne enlevée risque sa vie et que, passé ce petit moment de panique où on se dit « bon, ben, on va la retrouver, tout ça n'est qu'une petite plaque potache entre étudiants », on se rend compte que l'affaire est de plus en plus sérieuse. Et c'est ça que j'ai trouvé plutôt malin dans l'écriture, c'est qu'il y a une prise de conscience des personnages, que maintenant on ne joue plus, on n'est plus justement dans une blague, on est dans une vraie affaire criminelle qui pourrait très mal tourner. Et puis je vous avouerai que j'étais très heureux de retourner avec Sylvienne, que j'avais rencontré il y a des années sur Cassandre, avec qui on s'était très bien entendu, et puis de rencontrer Claudia, et puis retrouver aussi Natalia Dolcheva et Julien Boisselier. Enfin, il y avait beaucoup d'éléments qui faisait que j'avais envie de participer à cette aventure. Et puis, on a vraiment tourné dans un campus, beaucoup de nuits. C'est des tournages un peu particuliers, des tournages nocturnes. Et donc, voilà, il y avait toute une ambiance comme ça, une atmosphère que j'avais envie de vivre, voilà, avec mes camarades.
Tes projets, Bono, pour les mois à venir.
Un autre film, j'ai participé à une série récurrente avec Stéphane Bern qui s'appelle Belfond, dans lequel je joue son complice, enfin son... son meilleur ami qui va devenir son pire ennemi dans le temps d'un épisode.
Ouais. Toujours réalisé par les deux sœurs, Émilie et Sarah Barbeau.
Tous les jeux, exactement.
Très bien.
Là, je m'en vais tourner un César Wagner avec ma copine Olivia Cohen. Après, j'ai d'autres projets, la saison 8 de La Guerre des Trônes. Et puis, à la rentrée, pas mal de projets, dont deux dont je ne peux pas parler pour l'instant, parce que c'est en négociation. Et puis, surtout, l'espérance de reprendre le théâtre dès janvier 2025. Donc, voilà. Donc, j'ai un carnet de balles qui est relativement chargé. Ah oui, et puis un très beau film nous viendrons sans aucun doute présenter à La Rochelle. Qui est un film avec Cécile Bois, Marc Citi, Odile Villemin, Christophe Lobion et ma pomme, qui s'appelle Signalement, et c'est une histoire tragique sur un signalement de maltraitance sur une enfant, et réalisé par l'immense Éric Métayer, tiré d'un livre qui s'appelle Signalement, dont j'avais moi-même fait la préface il y a quelques années, sur des sujets qui me touchent et sur lesquels je suis engagé depuis plus de 25 ans avec La Voix de l'Enfant. Voilà. Et donc ben ça, c'est un film que j'ai tourné il y a quelques temps.
On a hâte de découvrir tout ce beau programme. En attendant, on te retrouve mercredi aux côtés de Julien Boisselier, Natalia Doncheva, Pénélope Rose-Lévesque et puis Rebecca Finet. Il y a plein de beau monde en tout cas autour de toi. Et puis Claudia Tagbo, évidemment, que pour ceux qui ont la chance d'avoir peut-être encore karaoké dans les salles près de chez vous, n'hésitez pas à aller le voir. Ça vient tout juste de sortir au cinéma il y a 2-3 semaines. Donc profitez-en. Voilà, si vous n'y avez pas été, Claudia y est absolument magistrale. Voilà. Merci beaucoup, Bruno.
Merci Alain, à très bientôt.
Et à très vite.
Inédit, mercredi prochain.
Après vous, commissaire.
Le campus n'est pas un policier.
C'est qui ces clowns ?
Ce ne sont pas des clowns, ce sont nos étudiants. J'ai autorisé votre présence sur le campus et en principe, la police n'a pas le droit d'y entrer.
Qu'est-ce que vous ne comprenez pas ? Une jeune fille a disparu, on est là pour la retrouver.
Ça fait plus de 24 heures qu'elle a disparu. Ça sent pas bon du tout.
Notre coup de cœur télé consacré à Pékin Express qui fait son grand retour après 3 semaines d'absence. Eh bien, jeudi, vous allez pouvoir enfin suivre la demi-finale entre les collègues corses, entre les petits suisses et puis également le coiffeur avec sa cliente. Et puis, ben, vous avez vu, hein, peut-être dans l'épisode, il y a 3 semaines, c'était le départ de Riyad et de Louison. Et Louison est avec nous pour revenir justement sur son aventure. Bonjour, mon cher Louison.
Bonjour.
Mais quelle aventure de dingue tu as vécue?
C'était incroyable, c'était inimaginable en fait, ce qu'on a vécu au bout du monde avec Riyad, et ouais, ce sera à jamais gravé dans nos esprits.
On s'est dit, la première chose qu'on s'est dit, mais Louison doit être une patte, mais extrêmement, mais bien faite pour supporter Riyad, mais comment tu as fait ?
Mais... En fait, ça s'est fait naturellement. On pouvait se détester autant qu'on pouvait s'aimer. On a passé des tellement bonnes soirées que, ben, naturellement, on arrivait à passer au-dessus l'un et l'autre quand on était en désaccord. Et le cadre fait que on est quand même à Pékin Express. On n'est pas là pour abandonner ou pour se prendre le chignon. On est quand même là pour passer un bon moment. Donc, on arrivait facilement à mettre de l'eau dans le vin
et puis tenter de gagner, quand même.
Et tenter de gagner. Même si c'était, on n'était pas les favoris au début, je pense.
Non, mais attends, faut dire que, alors surtout toi, là pour le coup, vous avez été vernis concernant les duos finales, hein, vraiment les confrontations. Puisque toi, je sais pas combien t'en as fait, mais je crois que sur les 3-4 premières étapes, tu les as toutes faites.
Hein. Ah bah oui, les 4 premières étapes, on a fini au duel final, et en tout, on a fait 6 sur 8 épisodes. Je plains celui qui réussira à battre son record, parce que vraiment, c'est le truc qu'il fait tous.
Alors pour ceux qui ont raté le dernier épisode où vous êtes incliné face aux collègues corses, malgré tout aujourd'hui, quel est le binôme dont vous avez été le plus proche durant cette aventure ?
Ben les Corses.
C'était dur ce duel final hein, quand même.
Ah ben moi je voulais être en finale contre les Corses parce que je les trouve admirables et j'aime leur énergie, j'aime comment ils voient la vie.
C'était ta finale à toi en fait là.
Ben c'était ma finale prématurée, c'est ça. Bon j'aurais préféré la gagner cette finale mais. Mais ouais, les Corses, vraiment, c'est deux femmes extraordinaires. Et je les aime de tout mon cœur.
Ça a été quoi, on va dire, ton épreuve la plus difficile? Celle que tu t'es dû à l'issue, plus jamais?
Ah, bah, je pense que c'est... Alors la plus dure, ça reste le trek, le volcan, quand on a dû gravir le Kawaijen.
Mais c'est que vous manquez d'oxygène, en plus, hein.
Oui. En plus, il y a le soufre, il y a la fatigue, mais je le referai. C'est la nourriture, par contre, si je pouvais éviter de le refaire, c'est avec grand plaisir.
Ouais, c'est pas très bon. Alors quel est le pays gustativement le mieux entre la Malaisie, l'Indonésie, alors le Vietnam pour le peu que vous en avez vu, mais en tout cas c'est lequel le meilleur des trois?
Ah ben je pense que c'est le Vietnam.
On mange mieux.
Ouais. Alors en Indonésie c'est très bon aussi. Non, les trois en fait. Mais c'est beaucoup plus pimenté en Indonésie que dans les autres pays, mais ouais, c'est différent, mais l'Indonésie et le Nasi Goreng, en fait, on en a tellement mangé que je pense que il y a un petit surplus de riz là. Mais par contre, c'était très très bon. Et le Vietnam, c'était une découverte. Hein. Pour le coup, je sais même plus les noms de ce qu'on a mangé, mais c'était délicieux.
À quel moment il y a eu ce déclic qui s'est dit, je vais faire Pékin Express tout seul, comme ça, en inconnu, et puis on verra bien avec qui je tombe.
Ben je sais pas. C'est une émission que je regardais déjà depuis que j'étais tout petit. Donc déjà il y avait, quand j'étais plus jeune, il y avait cette envie où je sais qu'avec ma cousine on en parlait, on disait qu'on voulait le faire, mais c'était un rêve en fait, ça c'était inatteignable. Et en fait ben c'est un soir, mais sur un coup de tête. C'est vraiment un énorme coup de tête où je me suis dit pourquoi pas. On verra bien. De toute façon tu perds rien. Et quand tu t'inscris, à aucun moment tu penses que tu peux le faire. C'est voilà, tu lances une bouteille à la mer sans espérer quoi que ce soit. Et le premier appel où on te dit t'es sélectionné pour la première phase de casting, cet appel-là, tu te dis ah oui, en fait c'est possible, c'est encore très lointain, mais c'est possible. Et là tu commences à y croire, t'es pris dans la machine, dans l'engouement, et tu te dis en fait mais si c'est pas si difficile que ça. Alors bon, c'est possible quoi.
Alors tu nous as dit le binôme dans lequel tu étais le plus proche, mais alors maintenant allez, tu vas un peu te lâcher, puisque maintenant il y a quelques mois, quel est celui qui t'a insupporté le plus?
Oh, mais il y en a aucun qui m'ont insupporté. Je me suis vraiment bien entendu avec tout le monde. Bah, en fait, ceux que j'ai jamais vus, c'est les frères, ouais. Parce que vu que j'ai pris l'avion pas au même moment que les autres candidats, moi j'avais vu personne avant le début du tournage. Donc pour pas que je rencontre Yad. Donc c'est vrai que les frères, bah en fait l'aventure a commencé, je savais pas qui c'était, et le lendemain on me dit ils ont abandonné, mais je sais toujours pas qui c'était. J'ai vraiment vu leur visage et appris à les connaître à travers ma télé comme tous les autres téléspectateurs.
Et ceux que tu as vu partir, et tu t'es dit là c'est vraiment pas juste.
Alors directement je pense à Jérôme et Emma, ouais. Mais je pense que les sœurs Inès et Lola auraient pu aller beaucoup plus loin. Je pense que c'était de la malchance, le fait que ben voilà, c'était notre premier jour à tout le monde. Elles auraient pu aller beaucoup plus loin. J'ai trouvé ça un peu injuste qu'elles partent si tôt. Mais après, par rapport à leur parcours, Jérôme et Emma auraient aussi pu gagner Pékin Express et aller jusqu'en finale, parce qu'ils avaient les moyens en tout cas de le faire.
Ah ouais, c'est vraiment une aventure qui peut basculer du jour au lendemain, ou que le moindre coup de mou ne pardonne pas, et on l'a vu pour eux, et vraiment voilà, on a souffert pour eux deux, parce que voilà, c'était pas mérité, et c'est vrai que voilà, c'est une aventure hors du commun que vous vivez tous. Louison, dernière question, si on doit te rappeler pour refaire l'aventure pour une version All Star, ou pour une version revoir les binômes qui ont marqué le plus l'aventure Pékin Express, est-ce que tu y retournes, et quels seraient les pays que t'aimerais le plus peut-être visiter dans l'aventure?
Ah bah, mon sac à dos est déjà prêt, au cas où.
Ah ouais, d'accord, carrément.
Mais oui, si on m'appelle, je repars directement. C'était tellement incroyable. Après, les pays, au tout début, moi, les pays qui m'attirent le plus, c'est l'Amérique du Sud. Mais j'étais persuadé qu'on n'y allait pas cette année, parce que ils avaient fait ça l'année dernière. Mais donc, si là, on me repropose et que c'est en Amérique du Sud, je serais hyper content.
Et ben voilà, le message est passé. Merci en tout cas, Louison, d'avoir été avec nous, Pékin Express. On rappelle que c'est la demi-finale, c'est jeudi à 21h10 sur M6. Les collègues corses, les petits suisses, et puis le coiffeur et sa cliente vont tenter en tout cas le tout pour se qualifier pour cette finale qui sera en trois parties, je crois, cette demi-finale. Déjà, il y aura trois épreuves. Sur les trois enveloppes noires, il y en aura une seule qui sera éliminatoire, et ça, eh bien, ça va être compliqué, mais on le espère tous, évidemment. Bonne chance, voilà, pour tous ces binômes encore en lice. Merci, Louison.
Merci, allez les Corses.
Vous êtes demi-finaliste de la 18e saison de Pékin Express. Ce sera beau, mais ce sera pas facile.
Ah, purée. Ça va aller? Tu veux faire quoi?
Votre objectif, maintenant, c'est la finale. C'est clair, c'est simple. Ça peut pas être autrement.
Ça coule de partout.
La demi-finale, c'est un sacré morceau.
Darn, on perd tout le riz. Là, je bouche avec mes tototes.
Ça va être très très long.
Et dans un instant, notre spécial frère pour terminer cette émission avec Olivier Casas et Michel de Robert, un grand moment en perspective. Alors surtout, ne bougez pas, à tout de suite.
Attitude, 20 ans de radio, 20 ans de tube. Nouvelle fréquence, 92.2 dans le Grand Cognac.
Chut, on écoute la télé, le talk show radio. Le coup de cœur ciné de la semaine.
Notre coup de cœur cinéma, ça sort mercredi dans les salles, un film à ne pas rater. Ça s'appelle Frère. C'est le nouveau film d'Olivier Casas après Babyphone. Il y a quelques années où on s'était rencontrés, mon cher Olivier. Te voilà de retour avec un film totalement différent dont on va parler tout de suite. Merci d'être avec nous, Olivier.
Avec plaisir. Bonjour.
Et puis, t'es venu avec un sacré beau cadeau. Oui. Puisque c'est une histoire vraie, frère, l'histoire de deux frères abandonnés à eux-mêmes dans une forêt pendant 7 ans de Châtelaillon en Charente-Maritime, et Michel et Patrice, et Michel de Robert, justement, dont sa vraie histoire est avec nous. C'est le plus beau cadeau que tu pouvais nous faire. Merci Michel de Robert d'être là avec nous.
Bonjour à tous.
Alors Olivier, je crois que Michel était voisin sur Paris et que vous connaissez depuis très longtemps tous les deux, mais que Michel a mis longtemps à te faire part un peu de son histoire et de ce qu'il avait vécu jusqu'au moment où il s'est livré. Et ça a pris encore quelques années avant de le décider. Effectivement, faire un film, ça pouvait pas rester plus longtemps aussi méconnu que ça. C'est extraordinaire cette histoire.
Bah, c'est une histoire que Michel a gardée secrète pendant près de 50 ans. C'était leur secret avec Patrice, avec son frère. Et c'est vrai que moi j'ai découvert cette histoire un peu par hasard, alors que ça faisait déjà une bonne dizaine d'années que j'étais ami avec Michel. Même après avoir eu les premiers mots de Michel sur son histoire et sur le fait qu'ils ont grandi comme pendant 7 ans comme deux enfants sauvages en forêt, on a passé près de 5 ans à discuter régulièrement par période et à se retrouver régulièrement tous les deux pour en parler, pour vraiment tirer tous les fils de cette histoire et que cette histoire qui a été secrète pendant longtemps puisse devenir un film en pleine lumière pour le grand public.
C'est un cadeau pour un cinéaste, pour un réalisateur, pour un auteur, quand on a quelqu'un qui livre une histoire pareille, qui peut pas être plus cinématographique que celle-ci, parce que je suis sûr que tout ce qui est dans le film, t'as quasiment rien eu besoin de romancer. On est dans la véracité, là.
Bah, surtout, il y aurait eu plein de façons de raconter cette histoire, parce que il y a cet élément exceptionnel, extraordinaire, qui est leur survie pendant 7 ans en forêt. Ça aurait pu être le cœur du film, mais surtout pour moi, ce qui a été important de raconter, ce qui m'a bouleversé encore plus que la sidération de découvrir cette histoire d'enfance complètement hors norme, c'est l'amour, c'est vraiment l'amour entre ces deux frères. Et en fait, le film est avant tout une grande histoire d'amour entre deux frères qui se sont aimés à l'infini, qui se sont aimés comme personne, et c'est surtout ça que j'ai voulu raconter.
Et leur retrouvaille, puisqu'il y a toute une partie tournée au Canada, où Michel retrouve Patrice. Là-bas, Michel, on hésite longtemps avant de se laisser happer par le travail d'un auteur, d'un réalisateur pour raconter sa vie.
Ça faisait 10 ans que je connaissais Olivier. J'avais beaucoup d'amitié pour lui, beaucoup de reconnaissance sur tout ce qu'il m'avait raconté sur son métier. Il a été bouleversé, ému. Donc à partir de là, peut-être que c'était le jour.
Il y avait une confiance qui s'est installée.
Il y a une confiance qui s'est installée, c'était certainement le jour. Et donc je me suis dit, il faut y aller, il faut raconter cette histoire, ça sera formidable pour lui. Et en fait, bon, prêt à payer pour moi, maintenant à mon âge, cette histoire elle est loin. Donc c'était extraordinaire de pouvoir lui donner ça.
Donner ça alors que c'est des souvenirs qui remontent énormément. Vous aviez 5 ans en 1947 quand vous avez été abandonné, 49 quand vous avez été dans cette forêt avec Patrice. Et pourtant Patrice était un peu le plus dégourdi des deux à l'époque, évidemment, puisque c'était aussi l'aîné. Et malgré tout, Michel, c'est peut-être vous qui avez fait le plus preuve de résilience, qui avez le mieux vécu le retour un peu à la réalité par la suite. Ça a été plus dur pour Patrice.
Ça a été plus dur. Mais donc il faut resituer cette histoire. Patrice est l'aîné, donc c'est lui qui porte tout. Lui, la personne au-dessus de lui. Moi, je suis son petit frère. Les moments de doute, les moments difficiles, même au niveau si j'ai froid, si j'ai des besoins, etc. C'est Patrice est là. Pour Patrice, personne n'est là. moi je suis là, mais je suis son petit frère.
Donc, la charge était énorme.
Il a la charge, là, il a une charge énorme, donc il va partir avec cette charge. Il faut pas oublier qu'on est aussi abandonné, qu'il y a pas de père, qu'il y a pas de mère, il y a personne. On est dans l'après-guerre, on est en plein sur le problème des enfants perdus d'après-guerre, parce qu'il y en a énormément qui n'ont pas leur identité, qui n'ont pas retrouvé. C'est difficile à croire aujourd'hui, mais ce film leur est dédié, et avec un peu de recherche, on s'aperçoit que c'est inimaginable, tous ces enfants d'après-guerre, qui sont restés comme ça, sans parents, sans identité, etc. Ensuite, Patrice, puisque vous posez la question, sa charge, il l'a prise en totalité aussi, parce qu'il ne retrouve pas son père, parce que il est en conflit avec sa mère, etc. Donc ça va très loin jusqu'au moment où il dit « Allô Michel, tu sais, je peux plus, c'est trop lourd à porter, j'en ai assez, la vie, elle ne m'apporte rien, elle m'apporte pas tout ce dont j'ai manqué ».
C'est costaud, effectivement, de s'entendre dire ça. Et malgré tout, c'est une histoire dans laquelle on est plongé avec une émotion très très particulière, parce que d'une, on est ému par la transition permanente entre 1949, 1900, les années 50, du moins le début des années 50, et puis après les années 90. Olivier, et c'est une balade permanente et qui rend certainement encore l'histoire émotionnellement, en tout cas, très très forte pour le spectateur également.
Oui, d'ailleurs, j'ai tout fait pour pas trop marquer les époques. Alors, il se trouve que pour l'enfance, la forêt des années 50 et la forêt, un arbre reste un arbre encore aujourd'hui, autant qu'il en reste. Donc, et c'est vrai que sur la partie contemporaine des années, justement, qui a eu lieu dans les années 90, j'ai essayé de pas trop marquer l'époque. Le maître mot avec mon équipe, c'était époque pas époque. C'était vraiment, parce que ce qui m'intéresse surtout avant tout, c'est que cette histoire reste intemporelle et universelle. Et j'avais pas envie de la dater. Alors c'est vrai que la question des enfants perdus, c'est un problème qui est très très lié à la période d'après-guerre, mais le prix à payer pour les enfants dès qu'il y a eu ou qu'il y a un conflit, c'est quelque chose de très actuel, et c'est un sujet qui est malheureusement encore, qui a encore beaucoup de résonance. Et dans les zones de conflit comme l'Ukraine par exemple, il y a la question des enfants qui sont enlevés par les Russes, elle est toujours aussi présente et elle existe. Donc cette dimension des enfants victimes des conflits des grands et des adultes, malheureusement c'est un sujet qui existe encore aujourd'hui.
On va revenir dans un instant, ça s'appelle Frères, ça sort mercredi au cinéma, on revient juste après avec vous justement aussi Michel de Robert sur le temps qui a passé justement, et on va écouter la bande-annonce et on revient juste après. Écouter.
Allô,
Patrice, avec toi. J'ai un mauvais pressentiment. C'est comme s'il avait disparu.
Dis-le-moi si tu sais quelque chose.
Il a pris son passeport ?
Il a dû le prendre.
Je crois que j'ai toujours redouté que ce moment arrive un jour. C'est étrange d'avoir une partie de son être qui vient en dehors de soi. Juste un demi-frère. Et pourtant, c'est la moitié qui m'a permis de rester en vie et de dépasser mes 6 ans.
T'es venu ici pour mourir ?
Il y a pire, non ?
Tu serais parti sans me dire au revoir ?
Tant que t'es là, on le saura jamais.
De retour, notre spécial frère avec Olivier Casas et Michel de Robert qui sont avec nous. Michel, on peut effectivement se dire, nous tous, surtout quand on habite par exemple en Charente-Maritime, comment ça se fait aujourd'hui qu'on n'ait pas entendu parler de cette histoire ? Plutôt, malgré tout, vous avez gardé ce secret pendant 50 ans, ce qu'on disait avec Olivier. C'était une sorte de pacte, tous les deux, avec Patrice, de garder ça pour vous, y compris auprès de vos femmes, de vos amis, etc., hein.
Alors cette histoire, c'est une sorte de pacte, tout à fait, parce que cette histoire, elle nous appartenait à nous. Quand vous êtes des enfants qui sont dans la différence, qui sont dans le pas comme tout le monde, entre guillemets, vous n'avez pas forcément envie de parler. Et puis la vie passe, et peut-être que certainement j'aurais parlé si j'étais seul, mais le fait qu'on soit deux, le fait qu'on se retrouve très régulièrement, on était excessivement proches, on se voyait tout le temps, automatiquement, cette histoire, on se la raconte. Si on peut parler de thérapie, la thérapie, elle s'est faite
entre vous deux,
de l'un vers l'autre. Hein. En plus de ça, raconter ça pourquoi ? Pour avoir des gens qui vont s'apitoyer sur cette histoire, pour avoir.
Je pense pas que c'est une histoire d'apitoiement, c'est découvrir quand même une histoire. C'est des petites histoires dans la grande histoire, en fait. C'est plus quelque chose qui va effectivement provoquer une émotion, mais c'est quand même un destin extraordinaire.
Alors, quand vous dites c'est une histoire dans l'histoire, c'est réellement ça. Oui, oui. Parce que tout à l'heure, on a parlé des enfants de la guerre. Ouais. Les enfants de la guerre, tous ces gosses qui sont là. Moi, pourquoi Olivier, il s'est dit, faut que je m'appuie, faut que je recherche, faut que je vois, etc. Il a découvert quelque chose d'incroyable au niveau de ces enfants de la guerre. Quand j'avais 10 ans, 9-10 ans, couramment dans le village, plusieurs fois par mois, il y avait des gamins qui avaient peut-être plutôt 14-15, mais qui traversaient les villages et qui cherchaient du travail de village en village, de ferme en ferme, de ce qu'ils pouvaient trouver. Et finalement, les gens les appelaient comment ? Des vagabonds. Et ces gamins qui étaient vagabonds, on peut aussi se poser la question aujourd'hui, où dormaient-ils ? Forcément dans une grange, mais aussi dans un fossé, peut-être en forêt. Donc tout ça n'était pas extraordinaire à l'époque. Et puis, est-ce qu'une porte se serait ouverte ? Est-ce que quelqu'un nous aurait dit « rentre chez nous » ? On est des enfants en guenilles. On est des enfants relativement violents. Quand on a volé des poules et des œufs, bien évidemment, le paysan, il va raconter au village « oui, c'est encore ces sales gosses là, qui habitent dans la... »
C'est un garnement, comme on disait à l'époque.
Voilà. C'est encore ces garnements, etc. Donc on est rejeté par l'abandon et on est rejeté par la société. Donc tout ça fait que ces années, elles passent, voilà, et on n'a pas envie de ces enfants. Et c'est l'amour entre nous deux qui va nous permettre quelque part de survivre. Olivier, il a pris tellement à cœur cette histoire qu'en fait cette histoire elle est sortie et il en a fait quelque chose d'extraordinaire. Donc ce film, c'est quelque chose de merveilleux parce que tout ce qu'on a pu connaître de difficultés et de bonheur et dans ce film. Et la première fois que j'ai vu ce film, j'étais tellement bouleversé. C'était un moment absolument très difficile et incroyable. Mais j'ai eu qu'un seul mot à dire à Olivier, c'est merci.
Il y a deux moments importants pour le coup. C'est la première fois que vous avez vu le film, peut-être tout seul, et puis la première fois que vous êtes revenu sur les lieux du crime en quelque sorte, à Châtelaillon et retrouver la maison, retrouver tout ça, c'est chargé en émotion.
Mais en même temps, aujourd'hui, je vais vous dire une chose, ma force. Même quand je participe au débat des avant-premières, ma force, c'est lui qui me la donne. Et je le fais pour lui, et je le fais pour Olivier, parce qu'Olivier, il m'a donné un cadeau incroyable avec ce film. Donc en fait, il a réussi à faire un film qui va au-delà de cette histoire.
Olivier, je me souviens quand t'as aidé il y a quelques mois sur le casting des enfants, je vois que tu t'es très bien débrouillé en tout cas, les enfants sont épatants, et puis ce duo de comédiens de Mathieu Kassovitz, évidemment, et d'Yvan Attal est juste bouleversant. On n'a pas l'impression de voir deux comédiens qui sont deux monstres sacrés du cinéma, mais de voir réellement deux frères, et ça c'est aussi la force du sujet, c'est de s'être complètement emparé pour Yvan de Michel, qui est encore là pour le coup, pour pouvoir peut-être lui transmettre certaines choses, mais peut-être plus compliqué pour Mathieu justement de s'imprégner de Patrice qui est plus là, donc c'est peut-être plus compliqué. En tout cas, ils sont incroyables tous, que ça soit les enfants ou les adultes.
Oui, c'est sûr qu'ils sont les six, parce qu'il y a deux binômes d'enfants, vu que Michel et Patrice ont passé 7 ans en forêt, il a fallu deux binômes d'enfants pour les incarner, parce qu'entre 5 et 12 ans les enfants ça change, donc un seul comédien n'aurait pas suffi. Après, concernant la Patrice, moi Patrice personnellement je l'ai jamais connu parce qu'il est mort il y a 30 ans, mais Michel m'en a tellement parlé. On a notre première discussion avec Michel, c'était il y a 9 ans, donc je vous laisse imaginer la quantité de d'émotions et d'informations, d'affects, de vécu partagé avec Michel et de discussions autour de Patrice. Ça a été tellement long et intense dans tout ce qu'on a partagé autour de cette histoire que aujourd'hui Patrice, moi je sais qu'il fait partie de ma vie. C'est un homme qui fait partie de ma vie, qui a pris une place dans mon vécu sans l'avoir connu. C'est la première fois que je ressens ça, et je pense que dans l'écriture j'ai forcément insufflé une certaine justesse à ce personnage, tellement grâce aux discussions et aux dizaines d'heures de discussions avec Michel, j'ai été à sa rencontre en fait, pas grâce aux mots de son frère finalement. Donc je pense que Mathieu avait aussi cette partition grâce aux mots de Michel, où Michel avait placé les notes et moi je les avais transposées pour qu'il y ait accès. Mais
lui, il avait plus qu'à les jouer. au piano.
Surtout, je pense que Mathieu a naturellement aussi une énergie et un feu et une intensité intérieure qui correspondait vraiment à ce qu'est Patrice. Et Michel, quand il a rencontré Mathieu, et encore plus quand il l'a vu dans le film, il a dit c'est fou parce qu'il y a des regards qui sont les mêmes.
C'est ça qui est assez dingue. En tout cas, allez découvrir Frères. C'est donc mercredi au cinéma. C'est le film à ne pas manquer de cette fin de mois d'avril à découvrir, Olivier. Parce que franchement, vous allez passer un moment extraordinaire. Vous allez découvrir une véritable histoire. Et puis, d'une qui est passionnante, émotionnellement chargée.
Qui porte aussi un bonheur absolument incommensurable. Parce que ce qui est fou dans cette histoire, c'est que quand on dit deux enfants abandonnés, on a tendance à se dire les pauvres. Mais ce qui a été terrible, c'est qu'ils ont eu des problèmes avant et après. Mais quand ils étaient tous les deux, au-delà de la faim et du froid, ils ont vécu un bonheur que peu d'êtres humains ont l'occasion d'expérimenter au cours de leur vie. Donc c'est une lumière absolument incroyable.
C'est ça le paradoxe.
Oui, c'est tout à fait le paradoxe. On a été parfaitement heureux au printemps, comme en ce moment, les premiers soleils où on va courir dans les blés, où on va se lancer l'un contre l'autre, etc. La rivière où on joue dans la rivière, etc. Tout ça, tous ces moments. Chaque fois que Patrice me ramène quelque chose, c'est un moment de bonheur. Et parce que c'est regarde Michel, ce que j'ai trouvé, etc. Et moi je suis content. Et je lui dis ah super, je vais pouvoir faire ça. Etc. Il y a beaucoup de moments de bonheur. Il n'y a aucune contrainte en rien. Il n'y a même pas le fait de se dire c'est l'heure d'aller dormir ou c'est l'heure de se réveiller. Ça n'existe pas. On dort quand on est fatigué, on mange quand on a faim, on fait ce qu'on veut. On est libre.
Je conseille à tous les enfants d'aller le voir d'ailleurs ce film. Vraiment, parce que vous allez voir qu'on peut être très très heureux sans téléphone portable, sans jeux vidéo, sans console, sans tout ça. Voilà, et qu'on peut effectivement vivre un bonheur tout aussi intense, en tout cas. Merci beaucoup à tous les deux. Merci Michel, en tout cas, et merci Olivier.
Merci à vous, merci, et merci de cette interview vraiment superbe.
Merci à toi, à bientôt.
Attitude.
Et n'oubliez pas que Chut, on écoute la télé sur Attitude, c'est aussi la quotidienne du lundi au vendredi à 10h07, midi 7 et 16h07. Vous pouvez aussi retrouver le podcast de cette émission dès ce soir, 20h, sur notre site internet onécoutelatélé.com et nous suivre tout au long de la semaine sur nos Facebook, Instagram et applications pour iPhone et Android. Chut, on écoute la télé. Cette émission sera également rediffusée demain soir à 19h. Alors il me reste plus qu'à vous souhaiter en tout cas une très belle après-midi à l'écoute de nos programmes sur Attitude. À tout à l'heure, 16h07 pour la dernière quotidienne de la journée.
Chut, on écoute la télé avec France Pare-Brise Cognac. Intervention sur tout type de vitrage et sur tout véhicule. France Pare-Brise est agréé toutes assurances et vous propose le prêt d'un véhicule en cas de besoin. Alors n'hésitez plus. Prenez rendez-vous chez France Pare-Brise, 79 avenue de Saintes à Cognac.
Chut, on écoute la télé avec votre biscuiterie Les Caprices de Thérèse. Des biscuits fabriqués à Blanzac en Haute-Vienne avec un savoir-faire artisanal et un goût authentique. Découvrez toutes nos recettes en grande surface et sur la boutique en ligne lescapricesdethérèse.com. Les Caprices de Thérèse, dégustez l'excellence.
Chut, on écoute la télé avec Mazagran Immobilier. La Maz Team vous propose toute transaction immobilière pour particuliers et professionnels avec une connaissance parfaite de son secteur. Mazagran Immobilier, c'est deux agents en Charente, à votre service, à Angoulême et Villebois-Lavalette et sur mazagran-immobilier.com.